Alors justement, à propos de ces stratégies du zéro mort, vous écrivez, donc, enfin, vous écrivez, non, vous citez un auteur qui est François Géré, voilà, et qui décrit lui-même ceci, qui dit, pour résumer, nous dirons, matérialiste et désirante, sécuritaire et introverti, les sociétés post-belliques hyper-médiatiques sont de plus en plus stratégiques, mais de moins en moins disposées au conflit.
C'est exact. C'est-à-dire que nous sommes particulièrement, nous autres Européens, très, très marqués par un demi-siècle de paix, un demi-siècle de prospérité relative jusqu'à hier matin, et où notre sécurité a été garantie par le puissant allié américain qui nous a offert le parapluie jusqu'à la chute de l'Union soviétique. Et lorsque l'Union soviétique est tombée, au moment où le monde venait complètement de changer, puisqu'en fin de compte, il cessait d'être bipolaire, alors qu'il n'y avait plus maintenant qu'un seul État hégémonique, ben, les Européens n'ont rien fait. Ils n'ont rien modifié. Ils ont suivi les conseils américains pour étendre l'OTAN. Ils ne se sont pas dotés d'une constitution. Ils ne se sont pas dotés d'institutions politiques. En fin de compte, lorsque la Constitution, ils ont voulu la donner, ils étaient 25, c'est-à-dire beaucoup trop nombreux pour pouvoir décider quelque chose. En d'autres termes, ce serait comme un club où les participants rentreraient et on essaierait de faire la charte du club une fois que tout le monde est dedans. Eh bien, nous, Européens, voilà ce que nous avons fait. Donc, nous voulons la paix, nous ne voulons pas payer le prix de la paix. Nous voulons l'impérium d'une certaine façon, mais nous ne voulons pas payer le prix de l'impérium, ce qui fait que nous sommes dans une situation extrêmement ambiguë. Voilà.
Alors, vous citez un autre auteur qui s'appelle Pierre Galois, donc qui est un géostratège contemporain, et qui parle des lois de la dissuasion. Alors, je vais de nouveau le citer. Donc, il commence ce chapitre en disant « Les moyens militaires de la politique de dissuasion doivent être invulnérables » ou au moins quasi invulnérables. Ils doivent échapper à la destruction, quelle que soit la puissance des forces adverses, et en dépit de tous les avantages que l'initiative confère à l'agresseur, il faut que la survie des forces de riposte soit assurée. Il est bien entendu que le pays qui fonde sa sécurité sur la politique de dissuasion à l'agression n'est pas lui-même l'initiateur du conflit. Bon, ça peut, à lire comme ça, c'est un peu ardu, mais... Moi, ça me fait tout à fait penser à la situation de l'Iran.
Oui. Vous savez, la dissuasion, c'est en fin de compte très simple. Toute la théorie du nucléaire réside, au fond, sur le fait que aucun des deux adversaires ne peut, même par la surprise, se débarrasser entièrement de l'autre. Du temps des Soviétiques et des Américains, si les Soviétiques avaient lancé une bombe atomique ou plusieurs bombes atomiques sur les Américains, ils n'auraient pas pu détruire toutes les capacités américaines parce qu'il y avait des silos avec des bombes enterrées, parce qu'il y avait des sous-marins dont on ne connaissait pas la position, parce qu'il y avait des avions qui étaient en vol de façon permanente. Donc il y avait une capacité de seconde frappe, c'est-à-dire que celui qui recevait la première frappe pouvait encore faire mal à l'adversaire. Donc ce qu'il y avait d'assuré, c'était la destruction mutuelle. Aujourd'hui, c'est pareil. Les Iraniens prétendent vouloir détruire Israël, c'est en tout cas ce que M. Ahmadinejad a dit, mais en fait, si par le plus grand des hasards, il disposait des moyens de le faire et qu'il voulait le faire, il signerait par là son arrêt de mort, l'arrêt de mort de la société qu'il représente jusqu'aux prochaines élections, j'espère, et qui ne mène à rien. Donc, moi, personnellement, je crois que la dissuasion continue de fonctionner, comme le dit ici le général Galois. En fin de compte, on en est réduit aujourd'hui essentiellement à des conflits limités, à des guerres irrégulières, à ce qui s'est passé entre les Américains et l'Irak, les Américains et l'Afghanistan, à ce qui s'est passé à Gaza dernièrement ou hier encore entre Israël et le Hezbollah. Voilà le rayon des choses qui nous sont permis. Je ne pense pas que la perspective d'une guerre entre Indiens et Pakistanais soit possible. Tous deux sont détentrices de la bombe. Donc, ce qu'ils réussissent à faire, en fin de compte, c'est l'usage, en ce qui concerne les Pakistanais, de terrorisme indirect, en envoyant, comme il y a 6 semaines de cela, un commando à Bombay et dans d'autres centres urbains indiens.
Alors, vous, comme spécialiste de stratégie, qu'est-ce qu'il faudrait faire par rapport à l'Iran? Il faut les laisser faire et considérer qu'un jour, ils deviendront un pays plus avec qui on pourrait négocier, ou bien il faut les arrêter? Il faut... Quel est votre point de vue là-dessus?
Bon, avant de pousser aussi loin, je dirais qu'il faut, comme la nouvelle administration américaine a décidé de le faire, il faut discuter avec, négocier avec, voir en quelque sorte quel type de compromis il est possible d'établir avec les Iraniens avant qu'il ne soit trop tard, au sens, disons, de la possession de la bombe. Et certainement que des compromis sont possibles. Ceci dit, d'autres pensent qu'évidemment, mieux vaut frapper tout de suite. C'est un courant qui existe, notamment parmi les Israéliens. Moi, je ne pense pas que ce soit une bonne idée à titre personnel. Maintenant, on peut bien sûr diverger.
Alors, est-ce que quelqu'un a une question?
Bonjour, mon nom est Benaji Aynashka. Je suis conseiller politique dans un comité pour les droits de l'homme en Europe centrale et spécialisée dans les problèmes de questions minoritaires. Donc, je voulais juste poser une question spécifique à l'Europe, puisque nous sommes ici à Bruxelles, capitale et cœur de cette entité qui est naissante au niveau politique, puisque, comme vous l'avez souligné, nous n'avons pas une volonté profonde d'être quelque chose par rapport au reste du monde. Je suis moi-même d'origine hongroise, et je voulais vous poser la question, hors conflit armé, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire respecter les droits des communautés dans le respect de leur langue et dans le respect de leur culture en Europe, pour éviter justement des drames comme ce que nous avons vu au Kosovo, par exemple? Oui. Merci beaucoup.
Bien, moi, je connais le type de problème que vous avez évoqué. Pendant 10 ans, j'ai été le président d'un truc qui s'appelle Groupement pour les droits des minorités, un mouvement affilié, en fin de compte, à Minority Rights Group, Grande-Bretagne. Et ça date de 1978. À l'époque, les droits des minorités étaient extrêmement ténus, il y en avait très peu. Vous savez que le droit des minorités, en fin de compte, n'a été évoqué dans le droit qu'en 1878 pour la première fois à propos de la Bulgarie. Et puis on n'en a plus parlé, alors que les problèmes de minorités, ben, ma foi, c'est ça qui a fait éclater, entre autres, avec le problème des nationalités, l'empire austro-hongrois. Depuis 1978, il y a eu des avancées. On a fait une charte des minorités en Europe, etc. Je trouve que c'est une très bonne chose. Cette charte est excellente. Seulement, il y a un problème, c'est que on signe cette charte, mais si on la viole, quelle est la sanction? Zéro. Donc, tant qu'il n'y a pas une sanction à la violation d'une charte qu'on a signée, je trouve que c'est un vœu pieux. Donc en Europe, nous en sommes encore là. Par exemple, la Turquie a signé la charte européenne en ce qui concerne le droit des minorités. Bon, qu'est-ce qu'ils ont fait avec leurs Kurdes depuis 1924? Qu'est-ce qu'ils ont fait depuis 1990? Qu'est-ce qu'ils ont fait depuis qu'ils ont signé la charte? Ma foi, rien. On nous a annoncé il y a 15 jours qu'ils avaient droit à une télévision. Et à quelques miettes. Et est-ce qu'on va faire des mesures de rétorsion à leur égard? Non, parce que ce sont de bons alliés de l'OTAN. Donc nous vivons dans un monde de deux poids, deux mesures, partout. On critique les adversaires, ce que je trouve normal, mais on ménage les alliés, ce que je trouve moins normal, en tout cas si on se place dans la perspective d'un minimum de cohérence et de justice, particulièrement lorsqu'on prétend donner des leçons aux autres. Voilà. Est-ce que ma réponse vous satisfait? Bon, c'est un début.
Alors, il y a une question là-bas, je pense.
Oui, bonjour monsieur, je suis ici par hasard et j'en suis très heureux parce que J'ai beaucoup de vos livres et je suis des questions stratégiques depuis longtemps. Depuis 5 ans, j'habite à Bagdad.
Oui.
Bagdad, il y a eu un passage extrêmement difficile. La situation là-bas est toujours très difficile, mais on a eu un passage qui était vraiment dur entre 2006, 2007, vers fin 2008. En grande partie grâce aux erreurs qui ont été commises principalement par les Américains, mais ils n'étaient pas les seuls. Il y a eu des erreurs par des Irakiens, il y a eu des erreurs des Nations Unies, etc. Donc. Mais par contre, il y a eu un changement de stratégie chez les Américains.
Oui.
Qui a vraiment porté ses fruits, et on les sent au jour le jour en Irak. Je vois ce livre, est-ce qu'il en parle, donc de ce changement de stratégie qui a été essentiellement le fruit du travail de Petraeus et d'autres, qui a vraiment, vraiment changé la donne en Irak.
Oui, il en parle dans l'introduction qui s'arrête à peu près il y a 3 mois. Il en parle en disant qu'effectivement, David Petraeus et sa stratégie a porté des fruits. C'est-à-dire qu'il a complètement reconsidéré le problème de la contre-insurrection et que la situation s'est beaucoup modifiée. Ceci dit, Petraeus lui-même, qui est un monsieur lucide que j'ai eu la chance de rencontrer à Mossoul en 2004, a dit également que c'est un changement fragile. Et aujourd'hui, si on parle de l'Irak, où je me rends en principe chaque année, plutôt chez mes amis kurdes, mais enfin avec eux j'ai été à Mossoul, à Kirkouk, à Bagdad, etc. Mon point de vue, c'est que rien véritablement n'est tranché sur l'avenir de l'Irak. C'est-à-dire, nous ignorons quelle va être la nature de l'État irakien en 2012. Est-ce que ce sera un État fédéral ? Est-ce que ce sera un État centralisé ? Quels seront les rapports entre les Kurdes et le gouvernement de Maliki s'il est encore au pouvoir ? Quelle va être la distribution des parts du pétrole ? Est-ce que ce sera fait selon la tripolarité actuelle ou est-ce que ce sera un État unitaire ? On reste à cet égard avec des points d'interrogation qui dépendent en définitive de la présence américaine et c'est pourquoi il me semble que le président Obama ne va diminuer le nombre des troupes américaines que très graduellement, de façon à éviter qu'on ne glisse vers une guerre civile toujours possible. Pourquoi est-ce qu'il y aurait une guerre civile ? À mon sens, parce que tant que entre factions rivales, et il y a, comme vous le savez mieux que moi sans doute, des factions rivales en Irak, tant qu'une faction estime qu'à travers la violence, elle peut arracher davantage que par la négociation, elle est tentée de passer à la violence.
Bonjour, oui. Je vois sur votre livre un avion furtif américain, mais moi je pense, et vous disiez justement, la plupart des pays qui ont l'armement atomique ne feront pas de guerre ou des guerres sur le côté, mais actuellement les plus grandes stratégies d'élimination ont été faites à la machette, quoi. Je veux dire, ou à l'arme blanche, ou enfin sans moyens très sophistiqués, que ce soit au Rwanda ou Darfour ou ailleurs. Quel est votre point de vue là-dessus et comment ces stratégies d'élimination peuvent être contrées voilà.
Là, vous me posez une question à 2000 dollars. Hein. Je dirais que, d'une façon générale, les Occidentaux essayent, je dis bien essayent, de ne pas accumuler le nombre de victimes. Ça ne les empêche pas d'en faire. Les dégâts collatéraux, par exemple, sont des dégâts assumés. Quand on dit que les États-Unis font des dégâts collatéraux en Afghanistan, cela vient du fait que, comme ils ne veulent pas risquer la vie de leurs troupes, ils préfèrent bombarder, et en même temps que l'élimination de quelques adversaires effectifs, risquer de tuer et réussir à le faire de la population civile. Mais effectivement, les grands massacres ont eu lieu ailleurs. Les grands massacres comme celui du Rwanda que vous avez évoqué, comme celui du Cambodge que je rappelle en 1975-78 et comme d'autres au Darfour par exemple et d'autres comme en Birmanie, on pourrait enfin en accumuler, c'est-à-dire qu'ils dépassent les 100 000 ou les 150 000. C'est peut-être bien le cas de l'Algérie pendant la guerre civile des années 90. Ben, les grands massacres se passent ailleurs et ils se passent en général dans des pays non démocratiques où il y a très peu de témoins étrangers. L'absence de caméras aide beaucoup aux liquidations. En fin de compte, le Rwanda, qu'est-ce qu'on a vu ? À quoi avons-nous assisté à la télévision ? Rien. Les troupes belges se sont retirées rapidement. Les troupes des Nations Unies, il y en avait 5000, se sont retirées parce que celui qui dirigeait les Nations Unies à l'époque, M. Boutros Rally, a déclaré que c'était insuffisant comme nombre de troupes. Au lieu de rajouter, il les a enlevées. Ce qui fait que les choses se sont passées à l'abri des regards et que les livres que nous avons lus par la suite ont été faits par des gens qui se sont rendus sur place pour voir les effets et non pas pour voir les faits. Voilà. Donc, on peut craindre. Oui, eh bien, les stratégies à cet égard, moi je crois que, très franchement, les Occidentaux, puisque ce sont eux qui peuvent intervenir, hein, on est bien d'accord, les Occidentaux, d'une façon générale, n'interviennent que dans les zones qui leur paraissent d'intérêt stratégique ou politique, et que pour le reste, ma foi, il faut vraiment que les gens se déchirent et que ça finisse par faire scandale, qu'on y prête attention. En d'autres termes, il y a encore de beaux jours pour les tueurs. Oui.
Bonsoir. Gérard Daval, je suis plasticien.
Un peu plus fort, s'il vous plaît.
Je vais essayer. Habituellement, enfin très couramment, les grandes dépressions économiques conduisent à des guerres qui sont souvent fortement dévastatrices et qui impliquent énormément de pays. Si vous êtes d'accord avec cette analyse, pensez-vous que nous y allions ? Et dans ce cas, où ? Dans quel pays ? Quelles conditions ? Est-ce que c'est Taïwan ? Est-ce que c'est... Enfin, je ne sais pas. Quel est votre sentiment, là ?
Ben, j'admets, comme vous, que c'est un constat, que les grandes crises provoquent des conflits. Ceci dit... Prévoir l'imprévisible, c'est un jeu très difficile. Je ne sais pas où ça peut éclater. Je dirais que sur la durée, c'est-à-dire sur les 30 prochaines années, ce qui dépasse, j'espère, de loin l'ampleur de cette crise, je vois énormément de conflits en Afrique subtropicale pour deux raisons. La première, c'est que nous assistons à l'heure actuelle à un doublement de la démographie sur les 30 prochaines années en Afrique subtropicale. Et deuxièmement, parce qu'il n'y aura ni la création d'emplois, ni l'éducation, ni la capacité des pays autour, comme l'Europe, d'absorber l'excédent. En d'autres termes, on va se retrouver avec une Afrique très peuplée, avec une foule de gens de moins de 25 ans et même de moins de 15 ans sans travail, sans éducation, sans perspective. Ça mène à des conflits, comme nous en avons déjà vu d'ailleurs, parce qu'en définitive, ce qu'on voit, c'est que depuis les années 90, les conflits n'ont pas manqué en Afrique. Je pense qu'ils vont se multiplier. En Amérique latine, ça me paraît relativement peu probable. Je pense qu'on a atteint, au contraire, une phase où les guérillas des années 60 appartiennent surtout au passé. En ce qui concerne le Moyen-Orient, ma foi, au bord de l'hypothèse d'un bombardement sur l'Iran, qui j'espère n'aura pas lieu, la situation ne me paraît pas du tout désespérée, ni du point de vue démographique, ni du point de vue social. Ailleurs, c'est difficilement prévisible. La crise va créer une tension sociale indiscutable et va de soi qu'un certain nombre de pays vont faire payer à leurs pauvres et à leurs marginalisés très cher la situation. Vous savez que Engels, en 1845, a écrit un bouquin sur la situation de la classe laborieuse en Angleterre. Il décrit, en fin de compte, ce que c'était que la situation des travailleurs dans l'industrie britannique à cette époque-là, les Britanniques étant les numéro un. ces conditions sont hallucinantes. C'est entre 14 et 16 heures de travail tous les jours, samedi compris. Les femmes travaillent également et dans les filatures et sont soutenues sous les bras par des cordes de façon à ne pas s'effondrer sous l'effet de la fatigue. Les gamins en dessous de 12 ans travaillent. C'est-à-dire que tout ce qu'on nous décrit sur les difficultés des travailleurs et le peu d'argent qui touche en Chine, nous l'avons vécu, nous, en Europe. Et je pense que ça va continuer aussi bien en Inde qu'en Chine. C'est-à-dire que le nombre de pays où la masse des pauvres continue d'être une proportion extrêmement importante va continuer et ils vont payer la croissance des autres. Voilà ce qui va probablement se produire au courant de cette difficile transition. Transition qui, pour conclure, je dirais, amorce quand même une époque où l'hégémonie absolue de l'Occident appartient au passé. Il faut quand même comprendre ça sérieusement. C'est comme ça.
Alors, il y a encore une question ici, puis je crois qu'on va bientôt clôturer. Il y a encore une autre question là.
Bonsoir. Pourriez-vous nous expliquer la stratégie des États-Unis vis-à-vis de la Russie ? Différente avec Obama qu'avec Bush, mais c'est assez difficile à comprendre.
D'accord.
Ici.
Et celle de la Chine aussi. D'accord. Bon, alors, en ce qui concerne la stratégie des États-Unis à l'égard de la Russie, je dirais que la guerre froide se termine en 1991 et la guerre froide, c'était, en fin de compte, l'endiguement. L'endiguement, ça veut dire on ne veut pas que les Russes aient une influence au-delà de cette ligne. Eh bien, cet endiguement a été remplacé, sans que cela soit dit, à travers le pouvoir feutré, traduction française de soft power, à travers le pouvoir feutré, cela a été transformé en refoulement. Il y a eu un refoulement systématique de l'ex-URSS aux frontières de la Russie. Voilà ce que l'observateur rigoureux, froid, non idéologique constate. Extension de l'OTAN, construction de l'oléoduc Bakou, Tbilissi, capitale de la Géorgie, Djehan, port turc, de façon à distraire vers l'Occident un pétrole qui, jusque-là, allait vers Moscou. Donc, compétition sur ce qu'on appelle le bassin caspien. Par la suite, révolution de couleur. Ces révolutions de couleur ne sont pas des révolutions strictement locales. Ce sont des révolutions préparées avec des envois d'ONG qui ne sont pas des organisations non gouvernementales. Ce sont des organisations gouvernementales déguisées avec de l'argent, avec de l'organisation et qui réunissent les mécontents. Inutile de dire que les mécontents sont nombreux. C'est-à-dire que les gens qui disent le gouvernement est corrompu, c'est vrai, il est corrompu. Le gouvernement est impopulaire. Oui, c'est vrai, il est plutôt impopulaire. Le gouvernement ne fait pas beaucoup de croissance. Oui, c'est vrai, il ne fait pas beaucoup de croissance. Donc, réunissons-nous, on va faire quelque chose de démocratique. Et s'il y a moyen de l'exprimer à travers une tout petite fenêtre d'opportunité de télévision et de médias, on réussit à réunir du monde et on leur dit, il faut faire des manifestations pacifiques, la rose, la tulipe, la couleur orange, et on bouscule, et ensuite on demande l'intégration dans l'OTAN, l'intégration dans l'Union européenne. Voilà ce qui s'est passé, et qui a cessé l'année dernière, avec l'erreur stratégique considérable commise par M. Chakachvili, le président de la Géorgie, qui a attaqué le premier à Tsingvali, et qui a fourni au président russe la possibilité de le contrer.